Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Regardez le passé du droit romain avec les yeux des Romains eux-mêmes, et d'abord avec ceux des juristes romains, c'est la perspective de notre cours. Et dans cette perspective, l'Inquiridion de Pomponius constitue un document incontournable, parce qu'il se propose explicitement d'exposer l'origine et les progrès du droit du peuple romain, de la fondation de la cité jusqu'à l'époque du Principat. Un document unique en son genre. Mais c'est justement pour cela qu'il faut le traiter avec précaution. Il représente un bon exemple du fait que les contenus sont influencés par la forme, que l'écriture n'est pas un accessoire de la pensée juridique, mais un élément qui la structure. Enfin, que les juristes sont des écrivains dont il est nécessaire de comprendre les stratégies expositives. Sinon, nous risquerons de rester prisonniers de leur idéologie. Ça même nous en apercevoir. Pour comprendre si l'Inquiridion de Pomponius est une machine à remonter le temps fiable pour notre voyage dans le passé, mon approche consiste à démonter le dispositif pour en voir les rouages. Nous avons déjà commencé à observer les textes au microscope dans le cours précédent et nous allons poursuivre aujourd'hui. Et justement, parce que c'est le microscope qui nous attend, commençons par une mise en perspective un peu plus large et rappelons-nous de quelques résultats mis en lumière pendant notre dernière séance. Nous connaissons l'Inquiridion de façon indirecte. Le digeste de Justinien en conserve trois fragments. Sur leur base, mais les données sont minces, l'Inquiridion me paraît s'articuler en une partie introductive sur la signification du mot « ius », « droit », en une partie centrale, elle-même tripartite, dédiée à l'origine du droit, ensuite au nom et aux origines des magistratures, et en troisième position à la succession des juristes. Enfin, dernière section de l'œuvre, un glossaire des termes juridiques. Dans son ensemble, c'est la première caractéristique que nous avons mise en évidence, l'Inquiridion se présente comme un gigantesque lexique, non seulement dans ses parties initiales et finales, où cela est plus évident, mais aussi dans la partie centrale, dite historique, ce qui a échappé à l'attention des historiens modernes du droit. Au vu de cette structuration lexicographique, lors du cours précédent, j'ai parlé d'une obsession dénominatrice de Pomponius. Cette perspective, centrée sur les termes, a un objectif pédagogique. Du reste, le titre « Inquiridion » signifie « manuel ». Et c'est un manuel introductif qui transmet les notions fondamentales du droit sous une forme terminologique en premier lieu. Ce n'est évidemment pas une simple liste de termes. Pour chacun, Pomponius fournit une définition en utilisant deux stratégies. D'abord, l'étymologie, qui, je voudrais le noter, est en elle-même une forme de définition. L'étymologie est une forme de définition qui sert à expliquer le signe linguistique. Par exemple, le terme curia, curie, en donnant en même temps une idée de son contenu. Par exemple, quand Pomponius dit que, on le voit au paragraphe 10, que ius honorarium dérive de l'honneur honos du prêteur, il explique le signe linguistique, bien sûr, mais nous donne aussi une idée du fait qu'il s'agit d'un droit créé par le prêteur. Pomponius n'utilise pas seulement la technique de l'étymologie, mais aussi une technique que j'ai qualifiée lors du dernier cours de définition dynamique. Nous l'avons vu à propos de la lex curiata, la loi curiate, la plus ancienne parmi les sources du droit dont Pomponius fait l'exposé. À ces propos, Pomponius dit « La cité s'étant ensuite développée jusqu'à un certain point, on dit que Romulus lui-même divisa le peuple en 30 parties qu'il appela curie, le mot latin curie, parce qu'alors il avait cure, si l'on peut dire en français, de la chose publique par les arrêts de ses parties. Et ainsi, il proposa lui-même au peuple plusieurs lois curiates. Le récit historique sert à donner une définition dynamique de la lex curiata, d'abord expliquée étymologiquement par la référence aux curies, à travers ce calembour, parce qu'il s'agit d'un calembour, ce n'est pas une véritable étymologie, les curies sont reliées au rôle du peuple dans la cure, la cura, le soin, la gestion de la chose publique. Enfin, il en arrive à la lex curiata, la loi votée par le peuple dans les curies. L'étudiant, grâce à ce passage, saura donc le sens du mot, il aura une brève indication sur ce qu'était l'écurie, mais surtout il saura que la loi est l'expression de la souveraineté du peuple, de sa participation à la gestion de la chose publique à travers la loi. En somme, le récit historique se condense en une définition, ou si vous voulez, le récit historique n'est qu'une forme dynamique de définition. Donc, lorsqu'on dit que Pomponius nous propose une histoire du droit, il faut toujours prendre en compte cette intention pédagogique très forte. Avec l'étymologie, la définition dynamique, Pomponius marque l'inquiridion d'une forte dimension terminologique, mais ce n'est pas l'unique schéma sous-jacent au récit. Pomponius, presque sans le faire paraître, a appuyé sa narration sur un schéma cosmogonique. Au début étaient les chaos, puis est établi l'ordre de façon analogue à ce qui se lit dans les Métamorphoses d'Ovide. Le juriste ne prétend pas entrer en compétition avec les poètes, et pourtant, comme Ovide avait demandé aux muses qu'elles conduisent sans interruption son poème depuis la plus lointaine origine, le même mot, du monde jusqu'à son temps, le progrès, de même, Pomponius annonce qu'il posera l'origine du droit et ses développements successifs jusqu'à son époque. Et tout comme Ovide œuvre son poème sur les chaos, l'absence d'ordre, de même les récits de Pomponius démarrent avec une époque sombre où il n'y avait ni loi ni droit. Et comme dans Ovide, les chaos est dépassé par un acte divin qui sépare les éléments jusque-là confus et en lutte, en donnant à la terre, au ciel et à la mer leur place et la paix, de même pour Pomponius, l'ordre commence par l'acte de Romulus qui divise le peuple romain en curies, qui peuvent dès lors approuver des lois. Avec la loi, c'est l'origine du droit. Et donc, si Ovide nous décrit une cosmogonie, avec Pomponius, nous avons une nomogonie. Maintenant, faisons ressortir un autre élément que nous avions laissé de côté dans notre analyse structurelle. En effet, au commencement de notre cité, dit Pomponius, le peuple romain se gouvernait sans loi et sans droit certain. Et les rois conduisaient tout à leur volonté. La cité s'était ensuite développée jusqu'à un certain point. On dit que Romulus lui-même divisa le peuple en 30 parties. Entre le moment, c'est ça l'élément que je n'avais pas souligné, le moment où les rois gèrent le pouvoir sans la loi, sans loi ni droit, et le moment où Romulus déclenche la genèse du droit, par l'acte de répartition du peuple et par les lois, s'est produit un événement. La cité s'accroît. Pomponius le précise, ad certum modum, jusqu'à un certain point, ce qui a une signification double. D'abord, qu'il s'agit d'une augmentation modeste, d'autres suivront bien plus importantes, mais cela veut également dire que la cité avait désormais atteint une mesure déterminée, un modus, un seuil critique qui demandait une transformation institutionnelle. Un seuil critique. Pomponius ne donne aucun détail précis sur cet accroissement, qui est d'ailleurs difficile à inscrire dans ce que nous connaissons de l'histoire archaïque de Rome, de quel roi qui aurait existé avant Romulus parle-t-il. Mais il serait hors de propos de chercher davantage de détails. Pomponius n'a pas pour but d'écrire une histoire de Rome, mais de son droit. En disant que la cité s'était développée jusqu'à un certain point, il veut donc seulement dire, seulement nous offrir une synthèse, un rappel qui résume tous les facteurs et les changements sociaux, économiques, démographiques, militaires. Même s'il les fait très rapidement, avec cette phrase, la cité s'étant ensuite développée jusqu'à un certain point, Pomponius fait donc entrer les facteurs historiques dans le monde juridique. Une des missions que l'on attribue normalement aux historiens du droit est de montrer comment les droits évoluent en fonction, en corrélation, justement, au changement de la société. Pomponius est aussi, à cet égard, notre prédécesseur dans la poursuite de cet objectif aussi convoité qu'insaisissable. Les juristes romains se montrent bien conscients qu'il existe un rapport entre l'histoire générale d'une société et son droit, mais prudent, ils se bornent à cristalliser l'histoire dans une notion quantitative. La cité qui croît. C'est tout qu'il nous dit de ce qui se passe à l'extérieur du droit, dans la vie historique, la cité qui croit. C'est d'ailleurs une expression qui se trouve déjà dans Tite Live, à propos du roi Servius Tullius, et cette notion est employée aussi par Cicéron dans le Probalbo, quand Cicéron se réfère à l'acte de Romulus d'intégrer dans la cité les Sabins, acte qui, selon l'orateur, inaugura la politique des Romains d'accueillir les étrangers dans la citoyenneté, politique que Cicéron estime être l'un des atouts majeurs qui explique le succès de Rome. Dans le récit de Pomponius, ce rappel de l'accroissement de la cité n'est pas isolé. Tout le récit est rythmé justement par ces étapes de développement que Pomponius évoquera à plusieurs moments. Surtout, cette croissance est le facteur qui, dans le récit de Pomponius, engendre par nécessité, c'est le mot que nous allons entendre maintes fois, nécessité, par nécessité, toute l'évolution des modalités de production du droit. Nous y reviendrons. Pour l'instant, lorsque cet accroissement est évoqué pour la première fois, c'est comme si Pomponius nous disait que la cité avait franchi un seuil critique qui comporte des conséquences nécessaires. Mais pourquoi et dans quelle direction? Revenons au chaos. Le peuple romain vivait sans droit et sans loi, certes. Ce qui manque est donc la certitude, la sécurité du droit. Voilà la formule profonde du récit de Pomponius. Une ville qui croît, un peuple qui s'élargit, a besoin de la sécurité juridique. Le droit doit être prévisible. C'est ça le sens ultime de la notion de sécurité juridique. Le droit doit être prévisible. Chacun doit connaître les conséquences de ses actes et de quelle marge d'action il dispose dans ses rapports avec les autres membres de la communauté. La sécurité juridique est la garantie de la stabilité des rapports humains et également de leur évaluation sur un plan d'égalité. Une société qui parvient à un certain degré de complexité ne peut pas s'en passer. Et c'est donc le cas de Rome. Maintenant que nous avons mis en lumière la formule à la base de l'Enchiridion, à savoir le rapport entre croissance de la cité et demande de sécurité juridique, nous pouvons reprendre la lecture avancée par rapport au point où nous avions laissé le développement du récit. Et dès le paragraphe 3, une surprise nous frappe. Nous assistons à un retour en arrière. Avec Romulus et les autres rois, nous avions assisté à la naissance du droit et grâce aux lois curiates, le peuple avait atteint la sécurité juridique, nous venons de le dire. Mais les rois sont expulsés ensuite. Et l'on revient à un état de chaos. Après l'expulsion des rois par une loi tribunicienne, dit Pomponius, toutes ces lois tombèrent en désuétude et le peuple recommença à se conduire plutôt par un droit incertain et par l'usage que par aucune loi promulguée. Et il subit cela près de 20 ans. Les rois, comme nous le savons, ont été chassés en 509 avant Jésus-Christ. C'est que cette loi tribunicienne n'est pas claire, parce que le tribun de la plèbe alors n'existait tout simplement pas. Pour sortir de l'impasse, on pense à la loi que Marcus Junius Brutus a fait voter en 509, qui abrogeait les pouvoirs du roi et envoyé en exil le dernier roi Tarquin le Superbe avec sa femme et ses fils, tribunicienne parce que Brutus était tribunus celerum, c'est-à-dire le tribun, le commandant des cavaliers. Mais le point crucial pour Pomponius est de montrer le rôle de la loi dans la chute des rois et donc, encore une fois, le rôle du peuple. Donc, cette référence un peu énigmatique dans son récit a toujours le but de montrer le rôle du peuple. Avec la fin de la royauté, leurs lois tombent aussi, les lois des rois tombent aussi, ou du moins le peuple ne veut plus les observer. De nouveau, on en revient à l'incertitude, notez l'adjectif incertum, une situation de mal-être, comme l'indique le verbe pati, qui dura presque 20 ans. Il subsiste une vague coutume, mais c'est comme si l'on était revenu à la situation précédente, Romulus. Ce retour en arrière a quelque ressemblance, me paraît-il, avec le récit de Lucrèce que nous avons évoqué dans une de nos séances précédentes, selon lequel, dans une première phase, le peuple s'était donné des rois et donc il y avait eu un commencement juridique. Les rois avaient ensuite été tués et c'est seulement alors que le peuple s'était donné des magistrats et des lois. À mon avis, en adaptant la doctrine d'Épicure, parce que nous le savons, Lucrèce était en train d'adapter son poème, la doctrine d'Épicure. En adaptant la doctrine d'Épicure, Lucrèce avait pensé à l'histoire de Rome, c'est-à-dire à une première phase monarchique et à l'expulsion des rois. Et Pomponius, à son tour, a pensé à Lucrèce. Et reprenons la lecture. Ensuite, pour ne plus être dans cette situation, il fut résolu par l'autorité publique de nommer 10 hommes chargés de demander des lois aux cités grecques et de renforcer notre cité par les lois. Gravées sur des tables d'ivoire, les lois qu'ils composèrent furent exposées près de la tribune aux harangues pour que chacun pût en prendre plus facilement connaissance. Et pendant cette année, le pouvoir souverain dans la cité fut confié aux décemvirs afin qu'ils puissent, s'il en était besoin, corriger les lois ou les interpréter, et sans qu'on pût appeler d'eux comme des autres magistrats. Ils remarquèrent qu'il manquait quelque chose dans les lois qu'ils avaient d'abord proposées. C'est pourquoi, l'année suivante, ils ajoutèrent 2 tables aux premières, et ainsi, en raison de cet ajout, ces lois furent appelées « lois des 12 tables ». Quelqu'un a prétendu que les décemvirs employèrent à l'écriture des lois un Éphésien nommé Hermodore, exilé en Italie. Je me limiterai à quelques commentaires. Tout d'abord, une considération chronologique. Pomponius parle d'une vingtaine d'années entre la chute des rois et la nomination des décemvirs. Mais avec Pomponius, les comptes ne tombent jamais juste. Les rois sont chassés en 509. 20 ans plus tard, nous sommes en 489. Peut-être Pomponius veut faire référence à la première sécession de la plèbe et à sa constitution d'une commune insurrectionnelle, j'aime beaucoup cette expression qui n'est pas la mienne, sur les monts sacrés, avec la création d'institutions spécifiques, tribunaux, édiles, sanctuaires. Mais c'était pourtant en 494, donc 15 ans, pas 20 ans, après la chute des rois, trop tôt donc. Et si Pomponius songeait à la nomination de Decemvirs, cela ne se situe pas 20 ans après la chute des rois, mais presque 60 ans, en 451. Ce fut alors que les patrici, les patres, comme les appelle Pomponius, acceptèrent la demande de la plèbe de nommer 10 magistrats chargés de la mission de réduire un impérium consulaire excessif et intolérable dans une cité libre, comme le dit Tite Live. Comment expliquer cette nouvelle erreur après celle concernant Tarquin le Superbe, fils de Demarate de Corinthe? L'erreur du copiste est comme souvent la solution la plus simple, même si elle est aussi la plus arbitraire. Ce qui est certain est qu'ici encore émerge l'intérêt de Pomponius pour souligner d'abord le rôle du peuple. Les Decemvirs sont nommés, nous le lisons, autoritate publica, c'est-à-dire avec le soutien du peuple, et il présente les lois à l'approbation populaire. Ensuite, il tient à relever le rapport entre les 12 tables et la Grèce, comme il l'avait fait justement avec, par l'évocation de Marate de Corinthe. Donc, il tient à relever le rapport entre les 12 tables et la Grèce, qu'il s'agisse de la Grèce à proprement parler ou des cités grecques de l'Italie, représentées par le personnage d'Hermodore, un Éphésien exilé en Italie. Comme il a été à nouveau démontré tout récemment, le rapport entre la législation romaine et la Grèce est une légende qui se forme à la fin de la République. Cicéron est le premier à avoir pris connaissance des lois de Solon et à les avoir confrontées avec la loi des 12 tables. Les historiens romains se sont immédiatement emparés de cette confrontation et l'ont enrichie de détails légendaires. Les plus enthousiastes furent bien sûr un grec, Denis d'Halicarnasse, dans ses Antiquités romaines écrites à l'époque d'Auguste. Il dit « Des ambassadeurs furent envoyés les uns dans les villes italiques, les autres à Athènes, s'informer des meilleures lois et surtout pour rapporter celles qui s'adapteraient le mieux à notre vie. » Légende probablement, mais une chose est certaine. Pomponius voit dans cette législation un moment décisif pour la stabilité de la cité. Il utilise l'expression « civitatem fundare legibus », ce qui veut dire « affermir, renforcer la cité par les biais de lois ». Comme il a été dit par Michel Imbert, on assiste à un moment politiquement essentiel, à la fondation de tout le droit privé et public sur la loi. Je reviens sur le style de la narration. Les Decemvirs remarquèrent qu'il manquait quelque chose dans les lois qu'ils avaient d'abord proposées. C'est pourquoi, l'année suivante, ils ajoutèrent 2 tables aux premières, et ainsi, en raison de cet ajout, ces lois furent appelées « lois des 12 tables ». Comme vous les voyez, c'est encore une fois un récit dont la finalité ultime est celle d'expliquer les noms. Et je suis sûr que ce que l'on retient plus aisément du récit de Pomponius, ce sont ce type d'anecdotes qui portent sur l'origine et l'explication des noms. Et c'est vraiment la démonstration de son habileté pédagogique. Il y a plusieurs façons de présenter un récit. Par exemple, comme l'a fait Sandro Botticelli dans ce tableau narratif, qui décrit les événements qui ont conduit à la mort tragique d'une fille, d'une femme, Virginie, et à la chute des décemvirs. Vous voyez ici, sur l'estrade du tribunal, les décemvirs, ils sont cinq, mais je pense qu'il n'y avait pas de place assez pour... avec Appius Claudius, qui est le chef du comité. Ici, vous avez Virginie en robe verte avec un manteau aux manches rouges ou roses, un client, un subordonné de Claudius, qui porte le même nom gentilis, il s'appelle Marcus Claudius, l'arrache, prétendant que c'est son esclave. Donc, elle était une femme libre, sous la puissance paternelle d'un père, qui était un soldat, un valeureux soldat romain. Donc, il essaie de la prendre en tant qu'esclave. Comme il y a une résistance, il propose de l'amener au tribunal. Donc, vous voyez, c'est un tableau où il y a, disons, une diachronie. Donc, les personnages sont répétés pour raconter une histoire. Virginie est pleurée avec son manteau. Ici, la fille est déjà montée sur l'estrade. Il y a un principe de débat. Ici, c'est le même personnage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui défend la position de Virginie, de la femme, en disant qu'il faut attendre son père. On voit très bien que c'est Tite Live, le texte que Botticelli est en train de suivre. Bien entendu, c'est un récit visuel bien plus court et synthétique que celui de l'historien. On voit ici probablement son père qui retourne pour défendre sa fille. Mais nous savons par le récit de Tite Live que les décemvirs, leur arrêt fut dans le sens d'attribuer de façon intérimaire, ce n'était pas l'arrêt définitif, mais de façon intérimaire, la possession de la fille à celui qui l'a réclamé. Donc, le sens ultime, c'était que le vieux Appius était tombé amoureux de la fille et, par le biais de son client, essayait de s'en emparer. Ce qui se passe ici, c'est l'épilogue tragique. Le père, au sabre, tue sa fille parce qu'il ne veut pas qu'elle soit délivrée à cet homme. Et après, il part. Et ici, il y a un affrontement entre des chevaliers qui représentent le peuple et les partisans de Appius Claudius. Alors, le thème du tableau est l'honneur violé et la fidélité matrimoniale qui ont conduit à la mort tragique de Virginie, mais le tableau évoque probablement aussi le thème politique de la légalité de la révolte contre la dictature. C'est un tableau qui a été peint jusqu'à la fin du XVe siècle, 1498. Qu'est-ce que ce tableau nous dit par rapport à Pomponius? Il n'y a rien de cela dans le récit de Pomponius. Il n'a pas voulu faire entrer le récit historique dans ce type de dans son récit. En tout cas, pas au moment quand il était en train de expliquer, exposer, présenter les sources du droit. Il a seulement dit, à un certain moment, qu'il y avait une différence entre les decemvirs et les autres magistrats, parce qu'on ne pouvait pas faire appel, comme il était le cas pour les autres magistrats. Donc, il y a un petit rappel à une situation, disons, de pouvoir un peu hors contrôle. C'est une évocation, une mention tout à fait juridique. Il n'y a pas de récit, de véritable récit. Donc, cela nous montre que le récit de Pomponius est vraiment une sélection, est une sélection qui s'adresse néanmoins à un public de jeunes gens qui était tout à fait à l'aise avec l'arrière-plan de ce récit juridique. Donc, pour le lecteur romain, cette histoire était une histoire très simple, bien connue, qui pouvait intégrer dans le récit de Pomponius. Mais ce n'était pas la tâche d'un juriste d'entrer dans les détails de l'histoire romaine, disons, du point de vue politique ou événementiel. Faisons un bilan. L'Inquiridion se base sur une série de stratégies. La stratégie pédagogique est de faire la liste des principales sources du droit en expliquant les dénominations. Le récit historique est aussi une façon d'expliquer les dénominations en donnant la définition des différentes sources de façon dynamique. Leur genèse en explique le contenu. Puis c'est les facteurs de la croissance de la cité mis en relation avec celui de la sécurité juridique. La cité qui se développe, qui devient plus complexe et peuplée, a horreur de la confusion. Enfin, j'ai mis l'accent sur la double origine du droit, d'abord avec les rois, puis après un retour en arrière, vers un demi-chaos, le nouveau commencement et un commencement définitif avec la loi des 12 tables. Le droit est désormais un élément définitivement intégré à la société romaine. Ainsi, il devient un des facteurs de sa puissance. C'est bien le moment pour nous aussi de tourner la page. Vous vous en souvenez, Pomponius a promis de s'intéresser à l'origine et au progrès du droit. Ayant parlé de l'origine après les 12 tables, il commence la description de son progrès, de son développement. Nous ne pourrions lire tous les récits de Pomponius, il faudrait lui dédier une année de séminaire, peut-être. Je vais donc résumer la majeure partie du récit qu'il consacre au développement et m'arrêter sur deux points qui me semblent tout à fait cruciaux dans sa stratégie pédagogique. Je résume les paragraphes 5 de 5 à 7. Pomponius nous dit qu'après la promulgation de 12 tables, se produisirent deux phénomènes. D'abord, il fut nécessaire qu'il y ait des interprètes, c'est-à-dire des experts. Et c'est justement ces propos qui remarquent que cette source du droit, l'interprétation des juristes, n'a pas de nom. Elle est appelée d'un nom général, jus civile. Ce qui montre Par contraste, les soucis dénominateurs de Pomponius, qui est navré par cette absence de normes spécifiques. Nous savons que son souci est celui de ne pas laisser ses élèves démunis, car ils ont besoin de mots pour mémoriser les notions. D'autre part, il parle des actions au moyen desquelles les hommes pouvaient se disputer entre eux, qui furent établies d'après ces mêmes lois, mais pour que le peuple ne pût pas en créer à sa fantaisie, ces actions ont été fixées solennellement et cette partie du droit s'est appelée action de la loi, c'est-à-dire action légitime. Ici encore, il s'agit d'une définition dynamique par le biais d'un récit. Pomponius nous explique le nom legis actiones, action de la loi, en disant qu'elle était fixe. Le peuple ne pouvait pas en créer à sa fantaisie, c'est cela qui résume dans l'adjectif légitime. Seulement les actions solennelles approuvées par les experts sont valables en ce sens légitime. Je n'entre pas dans la question très intéressante qui découle de ce dualisme instauré entre le peuple d'une part et les experts de l'autre. Si Pomponius a placé la souveraineté du peuple au centre de la genèse du droit, il était pourtant également très attaché au rôle des experts, donc il s'est légitimé lui-même en tant que jurisconsulte. Ce dualisme est symbolisé par les histoires liées d'une part à la divulgation des actions de la loi, par les scribes d'Appius Claudius autour de 300 avant Jésus-Christ, un véritable vol, et ensuite par les rôles de Sextus Elius, en savant authentique, qui incarne la catégorie des jurisconsultes à laquelle Pomponius se rattache lui-même. Venons donc au cœur du mécanisme de l'Inquiridion. Nous avions déjà souligné que le passage entre le chaos initial et l'acte d'institution du droit par Romulus avait été la conséquence d'un accroissement de la cité qui avait rendu nécessaire l'instauration d'une stabilité juridique. Au fil du temps, la cité croît encore, Pomponius dit, comme la cité croissait sans cesse et qu'il manquait encore quelques formules d'action, Sextus Elius en composa quelque temps après des nouvelles et donna ce livre au peuple qu'on appelle « Droit et lien ». Mais c'est au paragraphe 8 que le dessein de Pomponius devient plus évident. Lisons donc tout le passage. La plèbe, ayant fait sécession, peut-être Pomponius pense ici à la sécession de 449 avant Jésus-Christ, après les 12 tables et donc après l'événement que nous avons vu, créa, pour se régir elle-même, un nouveau droit qui reçut le nom de plébiscite. Lorsque la plèbe fut rappelée, comme ce plébiscite était sans cesse une source de discorde, la loi Hortensia les éleva au rang de loi et voulut qu'ils fussent observés comme tels, comme des lois. La loi Hortensia est datée de 287. Il arrive de là que les plébiscites et les lois, quoique différents quant à leur forme, ont cependant la même force. Ici vient le point fort, le dévoilement même de l'arc narratif, c'est-à-dire de l'intrigue qui se développe dans le récit de Pomponius depuis le nœud jusqu'au dénouement. Le facteur inducteur de la tension narrative est la croissance. Quand par la suite, il devenait plus difficile à la plèbe et à plus forte raison au peuple entier de se rassembler à cause de la grande masse d'hommes. La nécessité même transmit le soin des affaires de la République au Sénat, qui commença ainsi à intervenir et tout ce qu'il ordonnait était observé et ce droit fut appelé Senatus Consulte. Il y a donc une nouvelle poussée démographique. Si les récits de Pomponius est à peu près fidèle à la chronologie, on est là en fait au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, au moment de la première et de la deuxième guerre punique, quand les Romains, selon la fameuse expression de Polybe, ont pu, événement sans précédent, se rendre maître à moins de 53 ans de presque tout le monde habité. La grandeur a ses inconvénients. La plèbe, et à plus forte raison le peuple tout entier, ne pouvait plus se réunir. L'explosion démographique et l'éparpillement géographique l'empêchaient. Donc, dit Pomponius, la nécessité même transmit les soins des affaires de la République au Sénat. La nécessité même. Cette entrée en jeu du Sénat, la part qu'il prend dans la production du droit, est présentée comme quelque chose d'incontournable. Plus le nombre des citoyens augmente, plus il est nécessaire de réduire le nombre de ceux qui sont impliqués dans la production du droit. C'est un rapport inversement proportionnel. Inversement proportionnel. Le principe est celui de la sécurité juridique, encore une fois. L'Empire a besoin d'un droit, mais son expansion rend obsolète la participation du peuple, trop nombreux. D'où la montée en puissance du Sénat. Pomponius ne renonce pas, ici non plus, à une définition étymologique, même si c'est un peu moins évident qu'ailleurs. Les arrêts du Sénat s'appellent Senatus consulte, parce que dans le mot consulte, il veut faire entendre le verbe consulere, c'est-à-dire s'occuper de la chose publique. Le paragraphe suivant est le plus mystérieux. Il y a un énigme que, pour conclure notre séance, je vais essayer de dénouer avec vous. Le sens est à portée de la main, voilé par quelques mots embrouillés, ambivalents, et je veux vous conduire à travers cette strate du texte comme s'il s'agissait d'une fouille archéologique. Lisons le texte tel qu'il a été conservé par le manuscrit complet, le plus ancien du digeste, du 6e siècle après Jésus-Christ, aujourd'hui gardé à Florence. Donc, vous voyez ici le texte, la colonne de gauche. Vous voyez la transcription. Si nous lisons le texte comme il est rapporté par le manuscrit de Digeste conservé à Florence, la traduction serrée, ou plutôt, je devrais dire, l'interprétation que d'habitude les romanistes, les historiens du droit contemporain donnent à ce texte est la suivante. Finalement, comme il semblait que la nécessité avait fait passer, point d'interrogation, finalement, comme il semblait que la nécessité avait fait passer un nombre plus restreint de voies de création du droit par degré, il parut nécessaire que la cure gestion de la chose publique fut confiée à un seul homme, car le Sénat ne pouvait pareillement gouverner convenablement toutes les provinces. Donc, après avoir établi un prince, on lui donna la prérogative que ce qu'il ordonnerait serait valable comme des lois. La phrase n'a pas de sujet. Donc, dans cette interprétation, la phrase n'a pas de sujet. Parce qu'il y a quelque chose qui passe un nombre plus restreint de voies de création de droit, mais cette chose n'est pas évoquée. Mommsen, le grand éditeur du Digeste, pensait en fait qu'il fallait introduire le mot, un mot qui était un sujet. Il proposait « res publica », mais je ne crois pas, car ce n'est pas la « res publica », le sujet de la création du droit. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le protagoniste. Dans le récit de Pomponius, « res publica » est en revanche ce qui est gouverné par les droits. Ce n'est pas l'acteur de la production du droit. Relisons donc la phrase. Il y a une corrélation que j'ai essayé de montrer avec cette présentation chromatique. Il y a une corrélation entre sicut ipsis rebus dictantibus et evinit ut necesse esset rei publice per unum consuli. Ce sont deux phénomènes mis en relation. Sicut, ça veut dire tout comme, qui implique de même. Sicut, tout comme, de même. Et comme vous le voyez aussi, il y a du point de vue sémantique une corrélation entre ipsus, ipsis, rebus, dictantibus, sous la dictée des choses, et necesse esset, il devint nécessaire. Et bien sûr, il y a une relation, si vous voulez, numérique entre pauchores, un nombre plus restreint, et per unum, par un seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas un texte qui nous parle du passage à un nombre plus restreint de voies de production du droit, comme on l'interprète. Ce n'est pas quelque chose qui passe à un nombre plus restreint de voies. C'est la voie de création du droit qui passe à un nombre plus restreint des personnes. Donc, le sujet de la phrase est via. On pourrait même le garder comme vias au pluriel, mais je préfère, ce n'est pas nécessaire, mais je préfère le corriger au singulier. Donc, la voie des créations du droit passe un nombre plus restreint d'hommes, qui sont les hommes moins nombreux. Ils avaient été évoqués par Pomponius quelques lignes auparavant. Ce sont les sénateurs. Je me borne à dire que cette lecture du texte était déjà proposée par Guillaume Budé et par Ulrich Zasius, qui, suivant son exemple, l'exemple de Budé, écrivit un plus large commentaire en 1518, donc 10 ans après le commentaire que Guillaume Budé dédia au Digeste. Et il y a là un cas assez étonnant d'un retour en arrière dans la compréhension d'un texte par rapport à nos prédécesseurs humanistes. Zasius en particulier, il voit très bien qu'il s'agit d'une trajectoire du peuple au Sénat, au prince. Donc il voit très bien dans la première annotation cette trajectoire. Mais il reste le terme, on va le voir, il reste le terme per partes, terme qui lui aussi fait difficulté. Qu'est-ce qu'en dit Zasius? Il pense qu'il y a peut-être deux solutions. Peut-être que ça veut dire par degré, par une série de changements successifs, par étapes. Une deuxième possibilité, à cause des factions, des partis, en pensant aux guerres civiles conduites par les factions de Marius, de Sylla, de Jules César, et qui finalement aboutirent au principat d'Auguste. Donc, revenons au texte avec ces deux possibilités ouvertes. C'est un dénouement, comme je le disais, le point d'arrivée de l'intrigue. Les étapes de la croissance de la cité accumulent une tension susceptible d'emporter les lecteurs dans la progression textuelle de l'Enchiridion. Les récits vont du tout, le peuple, à l'unité, le prince. Chaque accroissement rend plus difficile la participation du peuple, du tout, à la production du droit, mais la cité a besoin de sécurité juridique, d'où le mécanisme qui procède de manière inéluctable. Il faut progressivement restreindre le nombre de ceux qui s'occupent du gouvernement, de la production du droit. Je souligne aussi que dans cette trajectoire, il y a aussi le chemin bien connu de la tripartition des formes de gouvernement. Donc nous avons la démocratie, nous avons l'oligarchie et nous avons la monarchie. Et donc on voit très bien que c'est les sous-textes de Pomponius. Mais peut-être qu'il y a vraiment un sous-texte. Je vous ai dit maintes fois que je trouve que la méthode plus, je dirais, plus concrète d'historiciser le droit, c'est de rattacher les textes juridiques à des autres textes. Parce que nous avons accès à l'histoire à travers des textes. Alors, la connexion que je vous propose aujourd'hui, c'est une connexion avec un texte de Tacite, donc d'un historien. Au début des annales, Tacite décrit très brièvement l'histoire de Rome et il en arrive à ce point. Il décrit les guerres civiles et après il dit « Quand il ne resta au parti Julien, le parti de Jules César, lui-même, d'autres chefs que César, c'est-à-dire Octavien, le futur Auguste, celui-ci, Auguste, commença à s'élever progressivement et à tirer à lui les attributions du Sénat, des magistrats, des lois. Les provinces, elles non plus, ne repoussaient pas cet état de choses, car elles tenaient en défiance les gouvernements du Sénat et du peuple à cause des rivalités entre les grands et l'avidité des magistrats. Alors, vous avez ici tous les éléments que vous avez dans Pomponius. Alors, vous avez le mot partibus qui résonne avec partes dans Pomponius. Vous avez les munera, disons, les voies de création du droit, en particulier les leges qui sont dont s'arrache le prince. Et vous avez les provinces qui ne peuvent pas être bien gérées par les magistrats. Et dans la phrase suivante, à peu près dans le même contexte, Tacite décrit comme ça l'aboutissement de l'histoire. Il n'est resté d'autre remède aux discordes de la patrie que le gouvernement d'un seul. Ce sont tout à fait les mêmes mots de Pomponius. Qu'est-ce que Pomponius a fait? Il a, disons, traduit le texte de Tacite dans un exposé qui avait comme premier but celui de montrer la production du droit et sa transformation. Mais nous allons vraiment terminer cette séance. Ce n'est pas la fin de cette section de l'Enchiridion, parce que la fin est celle que nous lisons ici. Ainsi, dans notre cité, il y a la loi qui est établie par les peuples en bonne et due forme, ou bien c'est le droit civil proprement dit, non écrit, qui consiste uniquement dans l'interprétation des prudents, ou ce sont les actions de la loi qui contiennent la manière de procéder en justice, ou il s'agit des plébiscites qui sont établis sans l'autorité du Sénat, ou c'est l'édit des magistrats d'où descend le droit prétorien, ou il s'agit des senatus consultes qui émanent du Sénat seulement sans être confirmés par la loi, ou c'est la constitution des princes, c'est-à-dire que ce qui est ordonné par les princes même est observé comme une loi. Ce passage n'est pas le résumé, n'est autre chose, ce passage n'est autre chose que le résumé de ce qui a été dit auparavant. Les sources de droit sont présentées de façon chronologique, dans la séquence même où elles ont été introduites par Pomponius dans son récit historique. C'est pourquoi, par rapport à l'état du texte conservé dans les manuscrits du Digeste, il est indispensable d'ajouter une référence à la loi, et je crois également au peuple, tout au début. Je propose une modification très lourde du texte, j'en suis conscient, ce n'est pas une proposition véritable d'émendation, c'est seulement un exemple pour montrer ce qu'il faudrait lire dans le texte. Mais il faut intervenir sur les textes, ce qu'on ne fait pas souvent. En donnant cette liste d'éléments qui ont marqué le développement du droit de Rome, Pomponius en donne une brève définition qu'il reprend du récit précédent, avec quelques petites variations, en particulier à propos du plébiscite du Senatus Consulte. Mais il me semble que ces sommaires confirment exactement ce que nous avions déjà appris de l'Enchiridion, à savoir qu'il vise à donner aux étudiants des listes, des termes avec leurs définitions. Si l'intention avait été de faire l'histoire du droit, nous aurions trouvé ici une réflexion conclusive sur ces panoramas. Au contraire, c'est cette liste qui apparaît, vers laquelle, donc, tendait tout le récit. Comprendre que l'Enchiridion, subordonne l'histoire à l'intention pédagogique, que l'histoire sert à donner aux étudiants débutants des mots et des noms à apprendre, des anecdotes dont ils pourront se souvenir, des définitions mémorisées, cela ne signifie pas en diminuer l'intelligence, mais comprendre que c'est seulement si nous considérons les juristes comme des écrivains que nous pourrons en saisir la pensée. Ces rouages, une fois mis au jour, l'Enchiridion se révèle être un savant entrecroisement de lignes narratives qui ont pour objectif plus que de conduire l'étudiant dans les passés, de lui faire apprendre le présent. Merci.